Les voies de service, mercredi le 6 mars 2019. Alors bonjour tout le monde, ici Daniel Lachance au micro de Canal M pour l'émission Les voies de service du 6 mars. Bonjour Serge.
Bien le bonjour.
Et bonjour.
Par ce matin glacial.
Oui, le matin glacial. Et encore glacé, les trottoirs encore glacés. Hein. Ouais, je pense qu'on commence tous à avoir des mollets en acier à force de
ça. Ça prend des crampons après vos bottes.
Oui, c'est vrai.
Achetez-vous des crampons. Ah oui, des crampons.
Et bonjour Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde.
Bonjour groupe.
Vous allez bien?
Je vais fort bien. J'ai des crampons, mais je les ai oubliés ce matin.
Ok. On est en semaine de relâche. Profitez-en bien. Restez un petit peu dans la maison aussi. Je pense qu'on gèle encore aujourd'hui. Non, on est fait plus fort que ça l'hiver, on est capable d'en profiter un peu. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Serge, de votre côté?
Ah, moi, je vous parle de L'Ange Bleu. Ça vous dit quelque chose?
Le nom m'a dit quelque chose, je ne fais pas de référence.
C'est un film tourné en 1929 et qui a lancé la carrière de Marlène Dietrich.
Ah, OK.
Non, je vous parle en fait de Marlène Dietrich.
Bon, OK.
Mais c'est Marlène quand on dit Marlène Dietrich ou L'Ange Bleu, un des deux, la référence dans l'esprit des gens, c'est... Tu dis Marlène Dietrich, les gens disent « Ah, c'est L'Ange Bleu
okay. ».
Tu dis L'Ange Bleu, « Ah, c'est Marlène Dietrich ».
Donc, ça va manquer. Ça manque à ma culture. Je vais écouter ça attentivement. Et moi, de mon côté, je vais vous parler encore un peu de streaming. Mais en fait, des artistes qui avaient résisté longtemps au streaming et qui n'y ont pas échappé aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous parler en première partie d'un grand chef d'orchestre très connu à Montréal.
Dis Daniel, c'est quoi, excusez mon ignorance, c'est quoi le streaming?
Streaming, c'est peut-être pas que je le prononce pas comme il faut, non?
Ça me tient.
C'est l'écoute de la musique en continu.
Ah,
quand on
parle
de Spotify, Apple Music, Deezer, des trucs comme ça.
Bon, mais j'en ai appris ce matin.
Oui, on en avait parlé encore la semaine dernière. On disait à quel point ce n'est pas payant pour les artistes. Ce genre, ce format-là, en tout cas.
C'est tout ce qui écoute sur Internet, finalement, qui ne demande pas un CD ou une cassette ou un DVD ou tous les médias. Dans le fond, quand on est sur YouTube, quand on est sur n'importe quelle plateforme web, on a besoin d'une connexion Internet pour écouter, d'où l'appellation écoute en continu ou streaming.
Mais savez-vous que je fais du streaming, mais que vous n'avez pas fait du streaming?
À votre insu.
C'est presque aussi pire que voler de la musique.
Mais si on écoute du classique, on fait également du streaming.
Absolument.
Je fais du streaming. D'accord.
Donc, c'est un article que j'ai pris dans la Presse Plus, édition du 1er mars. Vous connaissez le groupe Deux Frères? Vous avez déjà entendu parler
de
Deux Frères? Bon, donc, Deux Frères offerts en streaming. Le duo Deux Frères, qui a vendu 170 000 albums depuis le début de sa carrière en 2015, a annoncé hier que ses deux disques seraient dorénavant offerts en streaming. Une nouveauté pour l'étiquette MP3, dirigée par Mario Pelcha. J'avais jamais fait le lien, je viens de comprendre MP3, Mario Pelcha 3. C'est assez subtil, mais bon. Donc, Mario Pelcha, qui refusait depuis plusieurs années d'offrir ses produits sur les sites de musique en continu, tels que Spotify, Apple Music et Deezer. Je crois encore que c'était une bonne stratégie de ne pas aller tout de suite en streaming, dit Mario Pelcha, qui assure que la réflexion était entamée depuis longtemps. On n'aurait jamais vendu autant de disques sans ça. Mais là, les ventes physiques qu'il y avait à faire ont été faites. Donc, effectivement, sa stratégie était bonne. Il n'aurait peut-être pas vendu beaucoup de disques si ses artistes avaient été déjà en streaming depuis le début. Serait-ce un changement d'orientation pour la maison de disques? Le producteur le confirme. Chaque disque sorti depuis plus d'un an chez MP3 est analysé. Il est donc plus que possible que d'autres albums prennent le chemin du streaming, que ce soit Paul Daresch, Nadja ou les disques thématiques. Et puis une chose n'a pas changé, ajoute le producteur. Si le streaming est bon pour la visibilité, il ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et ça, Jean-Sébastien nous avait donné quelques démonstrations. C'est vraiment, vraiment déprimant d'entendre ces chiffres-là, genre 0,003 sous par je ne sais pas combien d'écoutes.
Oui, bien, si on a le temps à la fin de l'émission, là, je pourrais rappeler les chiffres.
C'est vraiment, c'est pas drôle. On est mieux de vendre quelques disques avant d'aller en streaming. La stratégie était bonne. Donc, ce n'est pas payant pour les artistes. Peut-être pour les vedettes internationales, mais sur le territoire du Québec, ils vivent comment si leur musique n'est qu'en streaming? Mmh. Et les ayants droit, les auteurs, les compositeurs, les producteurs, c'est toujours ça qui m'a interpellé. Je pense à l'avenir des artistes et ça m'inquiète. Les deux musiciens, à l'écoute de leurs fans sur les réseaux sociaux, ont également constaté que ces derniers commençaient à être un peu fâchés de ne pas avoir accès à leur musique en continu. Des propriétaires d'Android qui ne peuvent plus acheter de musique sur leur téléphone, des voitures neuves sans lecteur CD, des amateurs de musique outre-mer qui n'ont aucun moyen de se procurer leurs disques. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont décidé de prendre le virage. C'est vrai, quand on pense à ça aujourd'hui, il y a plein de... Moi aussi, quand j'ai acheté mon auto la dernière, j'ai été surpris de voir qu'il n'y a même pas de lecteur de CD. Donc, on est obligé d'avoir d'autres moyens, mettre de la musique en MP3 sur une clé USB ou bon... Est-ce à dire que le troisième album de deux frères sortira en même temps, en numérique et en physique? La décision qui est prise, c'est que les nouveaux produits qui sortiront sur support physique ne seront pas offerts systématiquement ou immédiatement en streaming, explique Mario Pelcha. Ça pourrait être une seule chanson au début, par exemple, puis l'album au complet, plus tard. Toujours en tournée avec son album « La route », Deux Frères vient de lancer « Un peu de toi », son troisième extrait radio en 18 mois. Ce qui n'empêche pas le duo d'être déjà en train de travailler sur son troisième album. On devrait le sortir à l'automne 2019 ou à l'hiver 2020, précise Éric Caouette. Donc, Serge, on parle maintenant de Marlène Dietrich.
Oui, oui. Alors, c'est dans la revue Point de vue, qui est une revue de potins royaux. Regardez la belle, la belle page couverture, c'est joli. C'est la duchesse de Cambridge, c'est ça. La femme du prince Harry. Mais ils ont de temps en temps des articles intéressants, historiques. Alors, c'est dans la revue de la semaine du 20 février. Alors, on parle d'un livre qui a été publié qui s'appelle « La scandaleuse de Berlin » de l'historien Jean-Paul Bled. Alors, c'est publié chez Perrin et c'est 380 pages. Et donc, on nous parle de ce livre-là et de la vie, donc, de Dietrich. Alors, avec Marlène Dietrich, « La scandaleuse de Berlin », l'historien Jean-Paul Bled retrace le destin de l'icône glamour du 7e art. Monument de sensualité, devenue fervente américaine anti-nazie, l'aristocrate se révèle tout en complexité, architecte de sa propre légende. Ce sont des propos recueillis par Estelle Lenartowitz. Bon, dans sa mémoire, Marlène Dietrich dit avoir eu une enfance heureuse. Est-ce qu'il faut la croire? Ses jeunes années sont marquées par deux décès. Son père, lieutenant de la milice impériale, on est à l'époque de l'Empire allemand, est terrassé par la syphilis alors qu'elle n'a que 5 ans. Puis c'est son beau-père qui disparaît tué au front pendant la Grande Guerre de 14-18. Imprégnée des valeurs aristocratiques de son milieu, Marlène ne tarit pas d'éloge sur sa mère, une femme pourtant très autoritaire. Elle lui est reconnaissante d'avoir fait d'elle une grande aristocrate prussienne, une femme dotée en premier lieu d'une forte discipline. Ce sera l'un des traits de sa personnalité tout au long de sa vie d'actrice, puis de chanteuse. Son sens du perfectionnisme, sa discipline intérieure, atouts qui font d'elle une grande professionnelle auprès des cinéastes pour qui elle tournera. De sa grand-mère maternelle, membre d'une célèbre famille de joailliers berlinois, elle héritera le goût du luxe et des belles choses. Elle se destine d'abord à une carrière de violoniste.
Ah oui?
Oui, oui, oui. Mais blessée à la main, elle se tourne vers la comédie. Bon, à quoi ressemble Berlin au moment où Marlène y fait ses premiers pas d'actrice? C'est le grand centre artistique de l'Allemagne. Depuis la guerre de 14-18, la ville a renforcé sa position, tandis que Munich, sa rivale d'antan, se provincialise. La ville attire de nombreux écrivains, comme Stefan Zweig, la décrivent comme une ville décadente, aux murs dissolus, et la comparent à Babylone, rien de moins. D'autres Berlinois d'origine apprécient son effervescence, sa vitalité créative, sa relative liberté sexuelle et politique. Marlène s'y sent comme un poisson dans l'eau. Très attachée à la ville où elle sera enterrée, d'ailleurs, elle se dit berlinoise de la tête aux pieds, comme elle le chante dans une célèbre chanson de L'Ange Bleu, son premier grand film. C'est à cette période qu'elle connaît ses premières passions, notamment avec Claire Waldoff, une chanteuse de cabaret qui l'initie au chant, mais aussi aux amours lesbiennes. Tout change avec L'Ange Bleu et sa rencontre avec le réalisateur Joseph von Sternberg, qui deviendra d'ailleurs son amant. Jusqu'en 1929, Marlène est surtout comédienne de revue. Quand Sternberg la voit apparaître pour la première fois sur scène, il est immédiatement subjugué et voit tout de suite son potentiel. Il l'impose au casting de L'Ange Bleu, malgré les réticences de l'équipe du film. Elle a le sentiment d'avoir rencontré un maître, son maître. Elle se montre d'une extraordinaire docilité, acceptant sans protester tout ce que son Pygmalion lui demande. Pour lui, elle se met au régime. Elle et le laisse sculpter son visage avec ses yeux de caméra et de lumière. Dans son regard, tout sous les projecteurs, elle devient la femme fatale. Il lui apprend à forger son propre mythe, ce mythe qui fascinera Hitchcock, Fritz Lang, Ernest Lubitsch et Orson Welles. Il lance aussi sa carrière internationale et part tourner avec elle à Hollywood. Marlène découvre alors les États-Unis, son pays, futur pays d'adoption, pour lequel elle militera avec ferveur. Jusqu'aux années 30, elle se préoccupe peu de politique, mais elle déteste Hitler depuis le début. Lorsqu'il arrive au pouvoir, la césure est complète, sa réaction est celle d'une aristocrate prussienne. À ses yeux, les nazis sont des plébiens. À Hollywood, elle protège et aide financièrement de nombreux réfugiés allemands et autrichiens, sans trop se mettre en avant, car il ne faudrait pas attirer d'ennui à sa mère et sa sœur restées en Allemagne. Elle prend aussi sous son aile des comédiens français émigrés à Los Angeles, par refus de servir une France occupée par Jean Renoir, René Clair, Jean Duvivier. Quand les États-Unis entrent en guerre, elle multiplie les actions de soutien à l'armée américaine. Elle va chanter pour les GI, fait des concerts dans les usines, milite pour les emprunts de guerre. Et d'ailleurs, Jean-Sébastien va nous faire écouter la chanson phare de Marlène Dietrich, chanson d'ailleurs qui a été, en premier lieu, c'était la chanson des soldats allemands.
J'ai déjà entendu ça, oui.
Résultat d'Hitler.
Je me souviens que c'était comme un thème pour eux.
Mais elle, Dietrich, l'a récupéré. Mm-hmm. Et alors, c'est le fameux Lili Marlène.
Mm-hmm. Now follows a song I sang during the war. I sang it for 3 long years all through Alaska, Greenland, Iceland, a little bit of England, France and Belgium, into Germany, into Czechoslovakia. The British soldiers picked it up first in Africa, and they made it their own. Lili Marlène. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lili Marlène. For you, Lili Marlène. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lili Marlène. With me, Lili Marlène. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come the love that's new. For you, Lili Marlène. For you, Lili Marlène. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lili Marlène. is light. It's you, Lily Marley. It's you, Lily Marley.
Quelle voix quand même.
Oui, oui, donc c'était Lily Marlène.
Oui, par Dietrich.
Par Marlène Dietrich.
Oui, oui. C'est un peu pompier par moment.
Oui, ben ça, c'était comme un peu une marche militaire, ouais, ben hein, parce qu'on a dit que les soldats allemands... Je ne sais pas si c'est disponible en streaming actuellement. Allez voir sur Apple Music. Et donc, moi, je vais vous parler maintenant d'un de nos chefs d'orchestre très réputé. Un article que j'ai pris aussi dans la Presse Plus, l'édition du 3 mars. Yannick Nézet-Séguin, chef de famille. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de difficultés à prononcer son nom au début. Je sais pas pourquoi, mais là, ça fait quand même une vingtaine d'années. Je le prononce lentement, mais je commence à l'avoir.
Moi, j'ai tenu longtemps à l'appeler Nézet-Séguin.
Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans son nom qui accroche. Donc, Yannick Nézet-Séguin a été nommé directeur musical de l'Orchestre métropolitain en 2000. Il n'avait que 25 ans, était doté d'une chevelure plus abondante et avait une incontrôlable envie de s'affranchir. Dans la brochure, ah non, j'ai plus de misère à dire brochure que son nom, pour dire. Dans la brochure annonçant sa première saison, la Presse, sous la plume de feu notre collègue Claude Gingras, disait de lui qu'il avait un talent hors du commun. Interviewé au même moment par Françoise Davoine dans la revue de la Place des Arts, le jeune chef confiait ceci à l'animatrice. Que ce soit bien clair, je n'ai pas l'intention de me servir de l'Orchestre métropolitain uniquement pour acquérir de l'expérience. Je suis bien décidé à m'investir totalement et à construire avec cet orchestre une relation durable. Yannick Nézet-Séguin est résolument un homme de parole et un être loyal. En effet, c'était ça mon approche, dit aujourd'hui le chef. Quand on m'a offert le métropolitain, j'ai pris le temps d'y penser. Il y a des gens dans mon entourage, des personnes bien intentionnées qui m'ont dit « Es-tu sûr que tu veux t'attacher à un seul orchestre tout de suite? Tu devrais peut-être voyager. Tu risques de rester local. » Je me souviens de m'être dit que je connaissais suffisamment l'Orchestre métropolitain pour savoir qu'ils avaient besoin de quelque chose et que je pouvais apporter ce quelque chose. C'était quand même assez sûr de lui, même à sa
tête. Oui.
20 ans plus tard, malgré des engagements avec le Met de New York, l'Orchestre de Philadelphie et les nombreuses invitations qu'il reçoit partout dans le monde, Yannick Nézet-Séguin demeure fidèle à cet orchestre qu'il aime plus que tout. Un amour que ses musiciens lui rendent bien. Yukari Cousino, violon solo de l'Orchestre métropolitain, a connu Yannick Nézet-Séguin avant qu'il prenne en main l'orchestre. Elle a travaillé avec lui lors de ses débuts comme chef de chœur. Il était dans la jeune vingtaine et déjà on sentait la magie, dit-elle. C'est un peu comme lorsqu'on aime un grand compositeur et qu'on s'intéresse à ses œuvres de jeunesse. Parfois, on se rend compte que tout était déjà là au début. C'est comme ça avec Yannick. Yannick Nézet-Séguin avait dirigé quelques concerts avec l'Orchestre métropolitain avant d'être embauché officiellement. Son premier concert, où figurait le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov, remonte au 16 novembre 1998. Quelques mois plus tard, lorsqu'est venu le temps de trouver un chef pour l'Orchestre métropolitain, qui traversait une période difficile, deux noms ont été proposés à un comité de sélection dont faisait partie Jean Paquin. Je me souviens avoir dit à mes collègues que si on optait pour une expérience immédiate, il fallait prendre l'autre candidat, mais que si on voulait avoir une vision à long terme, il fallait prendre Yannick. On a pris Yannick, dit-il avec un sourire. Que possède donc ce chef que tout le monde s'arrache? Il a refusé à ce jour une quinzaine d'offres de la part d'orchestres internationaux, quand même. Mm-hmm. Il peut se permettre ça aujourd'hui.
Oui.
Qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas? La musique doit se trouver dans la tête et dans le cœur d'un chef, reprend Yukari Cousino. Pour la très grande majorité, c'est comme ça. Dans le cas de Yannick, elle se trouve non seulement dans sa tête et dans son cœur, mais aussi autour de lui. Il la fait sortir et il arrive à la communiquer aux autres. Il y a une osmose qui se crée. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, on est en communication. Il est surprenant d'entendre cela alors que l'on pourrait croire que cela est une évidence pour tous les chefs d'orchestre. Si vous saviez, la plupart des chefs n'ont pas cette dimension que Yannick possède, dit Jean Paquin. C'est quelque chose d'unique et de rare. je sais pas comment figurer ça, une genre d'aura, j'imagine, là, c'est de charisme, je sais pas comment
On le voit quand il est sur scène. J'ai vu beaucoup de concerts de l'OSM.
Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de lui. C'est pas seulement les mouvements, là, c'est ça, sa personnalité. Ses propos touchent le concerné. Je me rends compte, en formant de jeunes chefs, à commencer par le superbe Nicholas Ellis, que je leur dis souvent de montrer leur amour de la musique. En ne faisant pas cela, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. On pourrait parler aussi de leadership et de renforcement positif. Je trouve que trop souvent, ceux qui sont en position d'autorité versent dans le négativisme et je trouve qu'ils font fausse route. 20 ans pour un chef au sein d'un même orchestre, c'est quelque chose de rare. Bien sûr, Yannick Nézet-Séguin s'est associé à cet orchestre lorsqu'il était jeune, mais il avoue que le chiffre 20 lui donne un certain choc. C'est la moitié de ma vie jusqu'à maintenant. C'est vertigineux. Cela dit, ma perception est que l'on est encore au début de notre chemin. Mais ça, ça correspond à ma philosophie en général. Les musiciens veulent toujours être meilleurs et se développer. Donc, Serge, on continue avec Marlène Dietrich.
Madame Dietrich, oui. Alors, quand les États-Unis donc entrent en guerre, elle multiplie les actions de soutien à l'armée américaine. Elle va chanter pour les GI, faire des concerts dans les usines, milite pour les emprunts de guerre. Et en 1944, elle part en tournée sur le front, en Algérie, puis lors de la campagne d'Italie. Il lui arrive de faire jusqu'à 3 spectacles par jour. Elle frôle le surmenage. C'est pourtant l'une des périodes les plus heureuses de sa vie, dit-elle. N'oublions pas que, par ses origines, elle entretient une relation étroite avec le monde militaire. Parmi les gradés, elle se sent chez elle. Marlène veut aimer et être aimée. On lui prête de très nombreuses conquêtes. Gary Cooper, James Stewart, John Kennedy, Frank Sinatra et John Wayne. Et des femmes, dont l'actrice mexicaine Dolores del Rio, sa grande rivale, Greta Garbo, et même sa vieille amie Edith Piaf. C'était Garbo qui était la grande rivale. Finalement, qui est le grand amour de sa vie? Un acteur français, Jean Gabin.
Ah oui?
Oui. Les deux amants sont pourtant extrêmement différents l'un de l'autre. Elle vient d'un milieu très aisé. Lui est un homme du peuple, mis en avant par la France, par le Front populaire. On dit que les contraires s'attirent, hein, souvent. Mais il arrive que les contraires se rencontrent et s'attirent. Ils se croisent une première fois à Paris, mais font connaissance en 1941 dans un cabaret à New York. Hemingway, qui connaît Dietrich, assiste à la rencontre. Au début, Gabin ennuie Dietrich. Mais ils décident de se revoir et très vite deviennent inséparables. Commence alors une très grande passion qui se poursuivra 7 ans. Elle le soutient énormément dans le lancement de sa carrière américaine et organise des dîners français pour qu'il se sente chez lui à Los Angeles. À ses côtés, elle se découvre même une vocation de femme d'intérieur. Chose unique, elle accepte à un moment très court d'envisager de divorcer pour lui. Avec son mari, Rudolf Seiber, elle entretient un lien très étrange. Ils n'ont aucune relation physique depuis la naissance de leur fille Maria en 1924. Officiellement, elle forme un couple, bien qu'elle multiplie les liaisons au grand jour. Quand elle rencontre Gabin, il veut des enfants, mais très vite comprend qu'il le sera impossible de construire une famille. Elle a déjà 44 ans. Lui veut rester en France, sa carrière à elle est de l'autre côté de l'Atlantique. La séparation est longue et difficile. Bien des années après, interrogé sur cet amour, lors d'un dîner, Gabin se confie et finit par éclater en sanglots. Affaiblie par des ennuis de santé et le décès de nombreux proches, elle décide en effet de s'installer dans son appartement de l'avenue Montaigne à Paris. Elle ne sort plus et ne se montre plus en public. En 1979, elle fait une apparition dans Just a Gigolo de David Hemmings, mais son visage, elle joue une baronne directrice de bar dansant, est recouvert d'une voilette. 3 ans plus tard, lorsque Maximilien Schell lui consacre un documentaire, elle refuse catégoriquement d'être filmée. Cloîtrée chez elle, elle ne reçoit presque personne et vient recluse. Sollicitée par téléphone, elle se fait passer pour une secrétaire et dit que madame est absente.
C'est un bon truc.
Oui, elle vieillit, mais souhaite rester pour toujours aux yeux du monde, jeune et belle femme fatale que le public connaît. Alors, pour terminer, on va écouter une chanson, la chanson de Piaf, La vie en rose. Mm-hmm. Et elle, Dietrich, parce qu'à partir des années 60, elle a fait une série de concerts à travers le monde. Elle a joué partout sur les grandes scènes. C'était le spectacle était couru partout, partout. Elle donnait un show incroyable. Et elle a repris cette chanson-là, La vie en rose. Et on va voir, c'est vraiment...
Une version qui est différente.
Une version différente. Ben, c'était... Dietrich était une diseuse, hein, mm-hmm. plus qu'une chanteuse en tant que telle. Là. C'était pas une chanteuse à voix, mais c'était une diseuse. Alors, écoutons cela, La vie en rose.
Hello. I'm going to sing you a few songs. I sang in my pictures. A few I sang for records, and a few I sang during the war. I'm going to start with one that I found right after the war in Paris and brought it over to America and became quite famous. You all know it very well, and I love it very much. La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oh, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes toujours à l'écoute de Canal M, l'émission Les Voix de Service. Et Serge, de quoi allons-nous parler en deuxième partie de cette émission?
Moi, j'ai trouvé un article dans la presse samedi dernier qui nous parle du... le titre, c'est « La rage de Big Mac ».
Ah?
Oui, ben c'est l'histoire, d'où les origines du Big Mac. Tout ça, c'est intéressant. Je vais vous lire ça. Puis également... J'aime toujours ça, Liz, quand on, comment on parle de nous de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, on parle, dans la revue Historia, d'octobre dernier, on parlait du musée des musées de la civilisation, pardon, et musée de la civilisation et de l'Amérique francophone à Québec.
OK. J'ai hâte d'entendre ça.
Oui.
Et moi, de mon côté, je vais vous parler d'un film qui va sortir bientôt, là, l'été prochain. Un film un peu sur les Beatles, mais sans les Beatles. On les verra mm-hmm. pas. Et un autre article que j'ai trouvé par hasard hier sur le site Urbania qui s'intitule « Ta gueule ». Je ne dis pas tout de suite de quoi ça parle. Je me suis dit, on va en faire un petit peu de chiolage ce matin, donc en lisant l'article de quelqu'un d'autre. Donc, Serge, on est d'attaque pour un Big Mac.
Oui, 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 oui. Mais là, je suis pas responsable si vous vous garochez après ça dans un...
problème de malbouffe aujourd'hui. On devrait même pas parler de ça, mais bon, on vous donne une chance.
Alors, c'est dans la presse de samedi, la section Inspiration, un article d'Ève Dumas, La rage de Big Mac. Donc, mais d'où vient la malbouffe, cette nourriture du diable, mais divinement bonne pour le moral? Chose certaine, ces icônes ont fait leur preuve et continuent d'inspirer certains chefs qui en produisent des versions maison. Dans cette série, notre journaliste Eve Dumas retrace les origines de quelques grands classiques. Bon, des burgers inspirés par le Big Mac, il n'y en a jamais eu autant. Le Big Matt, M-A-T-T, le Big Mike, le Big Max, le Big Mac and Cheese, le Big Mac Bao et le Big Chuck. Il y en a d'autres aussi.
Ça, c'est presque du plagiat, ça.
Oui, vous les avez tous essayés. Tout le monde les a essayés, je pense. Les grands mangeurs de ce monde, à défaut de diminuer leur apport calorique, se tournent vers les versions plus artisanales du décadent burger à deux étages. Chez Tousignan, un restaurant, il faut avoir un bon appétit pour réussir à ne rien laisser de son sandwich au dos moins, tenez-vous bien, 4 pouces.
Oh, ça prend une grande bouche.
4 pouces, c'est ça, à peu près, là, ça.
C'est dur pour les mâchoires, quand même.
Ouah. Je dirais que ce sont surtout des jeunes avec une bonne constitution qui commandent ce burger, admet Yann Turcotte, copropriétaire. Copropriétaire avec Stefano Faita et Michel Forgione du casse-croûte de la Petite Italie. Le simple burger Tousignan est déjà costaud avec son quart de livre de viande, son pain maison à base de pommes de terre et ses garnitures. On est loin de la petite galette mince du McDonald's. Le double cheeseburger du Tousignan lui compte, tenez-vous, une demi-livre de bœuf.
Oui, c'est...
Alors, un peu d'histoire. On ne fera pas ici toute l'histoire du burger, celle-ci ayant, comme le Big Mac, d'infinies interprétations. Sinon, pour rappeler que la galette de bœuf serait apparue aux États-Unis avec l'immigration allemande. Le hamburger steak, était servi dans quelques restaurants de New York à la fin du 19e siècle. Selon une des versions, ce seraient des marchands ambulants qui, vers 1890, auraient eu la brillante idée de servir la viande hachée entre deux tranches de pain, question d'éliminer la vaisselle du service.
Ah, c'était une bonne idée quand même, c'est un côté pratique.
Ben oui. Un des premiers burgers à deux étages aurait vu le jour à Glendale, en Californie. C'est en 1937 que Bob Vian a créé son Big Boy. Le nom du sandwich est ensuite devenu celui d'une des premières chaînes américaines de restauration rapide. Big Boy existe toujours, principalement dans la région américaine des Grands Lacs et près de Los Angeles. Le burger à deux étages reste sa spécialité. Aujourd'hui, il y a abondance de burgers, si gros qu'on se décroche la mâchoire en tenant d'en prendre une seule bouchée, que ce soit dans les chaînes ou dans les casse-croûtes artisanaux. La naissance d'une icône, bon, qui est le responsable de voirage de Big Mac? Il s'appelait Michael James Deligatti, habitait en banlieue de Pittsburgh, et a possédé près de 50 franchises McDonald's. Il est décédé à 98 ans en 2016, tout juste un an avant que le légendaire sandwich fête son 50e anniversaire. C'est en 1967 que le burger à deux étages, nappé d'une mystérieuse sauce rosée, fait son apparition pour faire concurrence au Whopper de Burger King et au Big Boy. Au départ, le siège social de McDonald's n'est pas très chaud à l'idée, mais il finit par donner le feu vert à Deligatti, qui teste le nouveau produit dans l'une de ses franchises. Le pain du burger étant trop petit pour accueillir deux boulettes, l'homme d'affaires fait à sa tête et en commande des plus gros d'un boulanger voisin, parsemé de sésame, qu'il coupe en trois. Le succès du nouveau produit à 45 cents est tel que le Big Mac apparaît au menu de la douzaine d'autres restaurants de l'inventeur, qui est pour ensuite se répandre partout au pays, comme de la mauvaise herbe. En 2016, il se vendait environ... Risqueriez-vous un chiffre?
Non, j'ai aucune idée. Parce que souvent, sur les publicités de McDo, on voyait « over 10 billion sold ouais. » ou je ne sais pas quoi. Ils montraient un chiffre.
Jean-Sébastien, risqueriez-vous un chiffre? Combien il se vendait de Big Mac en 2016?
Non, mais j'ai un souvenir de bande dessinée dans les années 80 à l'endroit où on voyait une pub où il s'était vendu tellement de Big Mac qu'on pouvait faire la distance de la Terre à la Lune.
Ah, ouais. C'est... Ouais.
Ben, oui, vous, en 2016, on 550 millions de Big Mac par année, aux États-Unis seulement.
OK.
Ah ah!
Ils sont nombreux.
Sans compter le reste du monde.
Ils ouais. mangent beaucoup.
Oui, mais ils sont rendus partout dans le monde. Mais les burgers de McDonald's perdent tranquillement du terrain au profit des nouvelles chaînes de restauration rapide comme Shake Shack et In-N-Out Burger, qui ne sont pas encore arrivés à Montréal. Dans un article du Wall Street Journal datant du 6 octobre 2016, on apprend qu'un seul millénial sur cinq a déjà goûté à un Big Mac.
Ah, ouais, c'est une bonne chose.
Cette information provenait d'une note interne d'un important franchisé de la multinationale. Bref, les ventes de burgers, McDonald's, Stang et le géant américain cherchent des solutions. Tousignan, on revient à ce restaurant. Tousignan, c'est l'incarnation même du casse-croûte d'antan, aux ingrédients frais, traçables et prononçables, qu'une certaine clientèle québécoise, composée de milléniaux ou pas, souhaite fréquenter de nos jours. Les burgers sont faits avec du paleron et de la pointe de poitrine de bœuf local. Celui-ci est haché frais tous les jours. La galette est servie dans des petits pains à la pomme de terre maison. On les garnit de tomates, d'oignons, de laitue iceberg, de cornichons et de sauce Tousignan. Pour notre burger de style Big Mac, on ne beurre pas le pain avant de le griller et on ajoute un peu de relish à notre sauce Tousignan, la sauce Tousignan. Il est monté dans un ordre particulier, explique Yann Turcotte, qui a trouvé une formule gagnante. Il y a des gens qui disent « c'est juste un casse-croûte ». Mais pas pour nous. On ne réinvente rien, mais on a des standards vraiment élevés, a déclaré Yann à l'ouverture du Tousignan il y a 3 ans. Peu de choses ont changé depuis. Vous voulez savoir comment faire la fameuse sauce à Big Mac et monter votre burger 2 étages à la maison? C'est par ici, en anglais, avec nul autre que le chef de cuisine de McDonald's. Et là, vous avez une vidéo en anglais, justement, où on peut voir ça.
Ça ouvre l'appétit. Donc, est-ce qu'on avait vraiment besoin encore d'un autre film sur les Beatles?
Ah, ben là.
Mais j'ai vu la bande-annonce de ce film-là et ça a l'air très intéressant. J'ai hâte que ça sorte. Je pense bien aller le voir au cinéma. Le titre de l'article, c'est « Yesterday, Danny Boyle imagine un monde sans les Beatles ». Et c'est un article que j'ai trouvé sur le site lepoint.fr. Imaginez un monde qui ne se déchaînerait pas sur Twist and Shout, ne pleurerait pas en écoutant Let It Be, ne frissonnerait pas sur Come Together. Ce bien triste monde, Danny Boyle l'a imaginé pour son nouveau film intitulé Yesterday. À la manière de Jean-Philippe en 2006, qui mettait en scène un univers où Johnny Hallyday n'a jamais été une star. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là avec Fabrice Luchini. Je me souviens, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre.
Le titre, c'est déjà...
Jean-Philippe. C'est le vrai nom, dans le fond, de Johnny Hallyday, qui s'appelle Jean-Philippe Smith. Fabrice Luchini se retrouvait dans un monde où personne ne connaît Johnny Hallyday. Puis lui découvre le vrai, qui n'est dans ce film-là, dans l'histoire, n'est jamais devenu une star, mais lui voudrait le faire. En tout cas, je vous raconterai pas le film, vous irez le voir, mais on a l'impression que ce film-là était un peu inspiré par Jean-Philippe. Donc, le cinéaste britannique de Slumdog Millionaire et Trainspotting propose une comédie où les Beatles et leurs mythiques morceaux n'ont jamais existé. Et pour se faire une idée du potentiel du long-métrage et de son pitch incongru, une première bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée. Ça vaut la peine d'aller voir ça. L'histoire suit Jack Malik, incarné par Himesh Patel, un jeune chanteur sans histoire dont la vie va changer après un accident de la route. Il se réveille alors dans un univers parallèle où le célèbre quatuor de Liverpool, le groupe qui a vendu le plus de disques au monde, ne s'est jamais formé. C'est drôle cette histoire-là d'univers parallèle. Il y avait une série il y a quelques années aussi qui s'appelait Life on Mars. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Le gars se réveillait pour un accident, il se retrouve en 1973 dans un autre monde. Les méthodes de travail sont très différentes. En tout cas, fait une histoire courte, mais il me semble que c'est un thème qui revient souvent. Je suis rendu avec ça. Il se réveille dans un univers parallèle. Voilà. Il découvre d'ailleurs, en entonnant Yesterday sur sa guitare, sans que ses proches ne reconnaissent l'une des plus grandes chansons jamais écrites. Ça vaut pas Coldplay et Fix You, lance une de ses amies. Jack décide alors de s'approprier les plus grands hits des Fab Four et finit par devenir lui-même une immense star dans le monde entier. Il collabore même avec Ed Sheeran, le célèbre interprète de Shape of You, qui joue ici son propre rôle dans le film. Dans la bande-annonce, le chanteur lui conseille d'ailleurs, ça c'est quand même assez cocasse, il lui conseille de renommer Hey Jude par Hey Dude. Qui on traduirait par « Hey mon pote » en français.
Oh, ouais,
nous, on dirait « Hey mon chum ». Non content d'être réalisé par l'excellent Danny Boyle, qui s'était récemment engagé pendant un temps sur la production du 25e film James Bond, avant de quitter le projet, Yesterday est écrit par Richard Curtis, à qui on doit des comédies so British comme Love Actually et Good Morning England. Outre Imesh Patel et Ed Sheeran, on retrouvera notamment au casting Lily James, qui jouait dans Mamma Mia 2, et Kate McKinnon, qui jouait dans Ghostbusters, ça date de plus longtemps. Le film sortira le 3 juillet dans les salles françaises. Bref, près de 50 ans après la séparation du groupe, la Beatlemania est encore bien présente, d'autant plus que Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, prépare lui aussi, ça je vous en avais parlé il y a quelques semaines je pense, il prépare lui aussi un film sur les Fab Four, un documentaire sur leur ultime album Let It Be à l'époque, en puisant dans 55 heures d'images inédites. Donc, à voir cet été, je vous invite à aller voir la bande-annonce, vous pouvez la trouver facilement YouTube, et ça donne le goût d'y aller, c'est très intéressant.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Vous aurez sans doute reconnu la chanson Yesterday, qui serait probablement la chanson qui a été reprise le plus grand nombre de fois par le plus d'artistes, de chefs d'orchestre. C'est quand même assez incroyable. Donc, McCartney reçoit des redevances, et Yoko Ono aussi, parce qu'elle est signée Lennon McCartney, même si c'est seulement McCartney qui l'a écrite. Donc, Serge, on parle de...
Oui, alors, c'est dans la revue Historia, un numéro spécial de l'automne dernier. Et je trouvais ça intéressant, c'est parce que ça nous parle, ce sont des Français qui parlent les musées de la civilisation de l'Amérique francophone à Québec. Et c'est juste intéressant de voir comment c'est écrit par des gens pour inciter les Français qui viennent ici à aller le voir. Alors, le musée de l'Amérique francophone se trouve dans l'ancien séminaire fondé en 1663 par Monseigneur de Laval. Le séminaire abrite aujourd'hui à la fois l'Université Laval et le musée. Sa chapelle fait partie du parcours de visite. Construite en 1900, elle témoigne de la puissance des institutions religieuses de la colonisation de la Nouvelle-France depuis le règne de Louis XIV. Ces institutions catholiques ont été à la base de la colonisation par l'évangélisation des Amérindiens et sont restés de puissants acteurs de la vie publique jusqu'aux années 1960. Grâce aux expositions temporaires proposées par ce musée, vous partirez sur les traces des familles de pionniers qui ont construit le Canada français, avant d'être rattachés à l'Empire britannique. Dans le moindre village, les descendants de ces familles d'origine sont toujours présents, cultivant la mémoire de leurs aïeux et accueillant les nouvelles générations de migrants. Le dimanche, Ils se retrouvent tous pour la pêche blanche. Des petites cabanes en bois sont posées sur une rivière gelée dans laquelle on fait un trou à la scie pour pêcher. La glace est si épaisse qu'on peut rouler dessus en voiture et mettre un poêle à bois pour chauffer la cabane. J'ai des amis qui ont un couple d'amis français et qui ont insisté pour aller à la pêche là, sur la glace.
Pas au mois de juillet, j'espère.
Non, mais ils voulaient vraiment voir ça, Au Musée de la civilisation, qui gère aussi le Musée de l'Amérique francophone, l'exposition « C'est notre histoire » retrace l'histoire des Amérindiens grâce aux témoignages de 18 peuples différents qui sont encore présents au Canada, parmi lesquels les Inuits et les Algonquins. Ah, c'était rédigé à la... pour inciter nos cousins
français. Ça nous décrit très bien.
Oui.
Bon, je me souviens quand je travaillais, il y a un de mes collègues qui me disait « Il y a tant de chiolage à faire dans une journée. On est aussi bien de le faire là. » C'est un article que j'ai trouvé, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit « Je vais vous en lire une partie ici. » Il est quand même assez long, là, mais c'est, mettons, quelqu'un qui a décidé de chioler un petit peu contre les personnes qui parlent pendant les spectacles.
Ah, ben c'est bien ça.
L'article s'intitule tout simplement « Ta gueule ». Et j'ai trouvé ça sur le site urbania.ca. Es-tu capable de la fermer, ta gueule? Le temps d'une toune. Je te pose la question car j'observe depuis environ 5 ans un phénomène hallucinant. Les gens payent 30, 50, 80 ou même 120 $ pour aller jaser de leurs vacances au Portugal du mois dernier, au MTELUS, lors du show de The National, pendant la pièce « About Today ». Ils semblent pourtant très conscients du fait qu'ils ne sont pas dans un Irish pub. Il y en a même qui ont l'air sobres. Je les observe arrêter de parler 10 secondes pour applaudir le band ou l'artiste sur scène une fois la toune terminée. Et lorsque la musique recommence, leurs babines font pareil. Et c'est important de noter que c'est pas un truc générationnel, c'est plutôt généralisé. Et je ne suis pas le seul à détester ce comportement. Le musicien Jeff Tweedy a d'ailleurs déjà dénoncé cette mauvaise habitude en plein spectacle. Lors de ma visite à Los Angeles il y a quelques mois, je me suis procuré des billets pour aller voir MGMT au Hollywood Palladium. Rien n'aurait pu me préparer aux multiples faux pas des spectateurs. Bien sûr, il y avait le Snapchatteux qui faisait une vidéo artistique abstraite en filmant le band, le plafond, son short, le plafond. Il y avait aussi le couple qui me reculait dessus alors que je faisais un effort pour conserver mon périmètre initial. Le plancher était pourtant en pente descendante vers la scène. Et non, je n'ai pas vraiment envie de sentir vos bras suintants contre les miens. Prochaine fois, maybe. Je comprends un petit peu. Je regarde ça, j'ai lu l'article au complet. C'est pas mal long, là, mais je le comprends un peu. Puis j'ai réalisé que peut-être que moi-même, je vais beaucoup moins à des concerts. Puis c'est peut-être un petit peu à voir avec ça.
À cause de ça
le manque de respect des gens en général. Ben, pas tout le monde, là, mais il y a beaucoup de personnes qui vont là puis ils ne respectent pas du tout ce qui se passe. Est-ce une incapacité de notre part à rester focus plus qu'une minute trente? Les dommages collatéraux d'être autant stimulés par les nombreux écrans de nos vies, un manque d'amour de nos mères, un encouragement perpétuel à exprimer notre opinion dans des sections commentaires web, je n'en sais rien. Ça me fait réaliser qu'une solution au problème pourrait être de faire un petit reminder de quelques secondes avant le concert en question. Rappeler aux gens d'éteindre leur iPhone, de participer au spectacle en écoutant, après tout, c'est le show pour lequel tu viens de payer, et surtout de sortir de la salle, si tu as envie d'entreprendre une conversation sur l'immensité du cosmos et le meaning of life. Ils font ce genre de message au cinéma, lors des spectacles d'humour, au festival de jazz, au théâtre. Pourquoi pas avant le show de PV Hardway? Ah, puis en passant, arrête de filmer le show avec ton cell. T'es pas Wes Anderson, il y a du meilleur footage que le tien sur YouTube. On s'en torche, pour vrai.
Shh. oh so stale. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over. And riot.
Chanteuse islandaise Björk, qui reprenait ici une pièce de 1951 interprétée à l'origine par Betty Hutton, It's Oh So Quiet. Björk qui a sorti cet extrait en 1995.
Et on entend très bien le message là, dans la chanson, mm-hmm. Le chut. Mais ceux qui parlent fort ne peuvent pas entendre ça.
Ouais.
Donc, Serge, vous avez une brève pour
oui,
nous.
Oui, ben, des petites brèves que j'ai trouvées dans le TV Hebdo de la semaine dernière par Louise Bouchard et Daniel Goyette. Déjà très prisé à l'époque de la Rome antique, l'escargot serait l'un des premiers animaux à avoir été intégré dans l'alimentation humaine.
Ah.
Ouais. De nos jours, le goût délicat de sa chair est toujours fort apprécié. Même que certains amateurs soumettre les mollusques à un jeûne durant une dizaine de jours avant de les cuisiner afin d'en rehausser la saveur. Alors, on conseille de déguster très lentement. Un autre petit? Ou vous en avez un? Oui. D'où vient le yogourt? Les historiens pensent que le procédé de fermentation a été découvert par hasard. Voyageant dans les steppes mongoles, les nomades transportaient leur lait dans des sacs en peau de brebis ou de chèvre. À force d'être remué sur le dos des buffles, le lait, ainsi chauffé, a produit au contact de deux bactéries le premier yogourt. Toutefois, ce n'est qu'en 1905 que le biologiste bulgare Grigorov a identifié la bactérie responsable de l'acidité et que le yogourt a été commercialisé, d'où peut-être qu'on a maintenant dans les épiceries le yogourt des Balkans.
Hein? Oui, je pense que... Mm-hmm. Et si jamais, si ça vous intéresse, si vous intéressez à Beko et Aznavour, je viens de voir dans le 24 heures d'aujourd'hui, Gilbert Beko et Charles Aznavour revivent à travers leurs grandes chansons revisitées par les interprètes Philippe Berguela et Manuel Tadros. Accompagnés par 6 musiciens sur scène, les deux chanteurs rendront hommage à ces deux monuments de la chanson française avec des titres comme « Et maintenant, hier encore » et blablabla. Et c'est aujourd'hui au cabaret du Casino de Montréal... ce soir.
Ah, bon.
Donc, ceci met fin à l'émission Les Voix de service du mercredi 6 mars. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Serge Bradet, d'être là. Merci à Jean-Sébastien Liberté à la mise en onde. Merci à tout le monde et on vous souhaite une bonne journée. Et pour nous, on se retrouve mercredi prochain avec aussi Isabelle Falardeau.
Oui.